France Culture.
Raison et sentiment, de Jane Austen. Réalisation, Juliette Emmaille. Premier épisode.
La famille Dashwood était depuis longtemps installée dans le Sussex. Leur propriété était vaste et ils habitaient Norlen Park, au cœur du domaine où, depuis plusieurs générations, ils avaient vécu de façon si respectable qu'ils s'étaient attiré l'estime de tous leurs voisins. Le précédent propriétaire, pour pallier la mort de sa sœur qui lui servait de gouvernante et de dame de compagnie, invita et hébergea la famille de son neveu, Mr. Henry Dashwood, l'héritier de droit de la propriété de Norland. Mr. Henry Dashwood avait eu un fils d'un précédent mariage et trois filles de sa deuxième épouse. Le fils, John, avait été bien servi grâce à la fortune considérable de sa mère, dont il avait touché la moitié à sa majorité. Son mariage, qui intervint peu après, lui permit d'augmenter sa fortune par la suite. Le fait d'hériter de la propriété de Norland n'avait donc pas pour lui la même importance que pour ses sœurs, car, indépendamment de ce que l'héritage du domaine par leur père pouvait leur rapporter, leurs avoirs n'avaient rien de considérable. Le vieux propriétaire mourut. On lut son testament, qui, comme presque tout testament, provoqua autant de déception que de satisfaction. Les dispositions prises empêchaient absolument Mr. Henry Dashwood de protéger sa femme et ses trois filles. Tout avait en effet été verrouillé au profit de son petit-fils, un enfant de 4 ans, qui s'était si bien attiré les grâces de son grand-oncle qu'il fit oublier toutes les attentions auxquelles le vieil homme avait, des années durant, eu droit de la part de sa nièce et de ses filles. Toutefois, comme il veillait à ne pas leur manquer de reconnaissance, il léguait 1000 livres à chacune des trois filles pour leur marquer son affection. Pour Mr. Henry Dashwood, ce fut d'abord là une assez forte déconvenue. Mais c'était un homme joyeux et optimiste de tempérament. Il pouvait raisonnablement espérer vivre encore de nombreuses années, et en réduisant ses dépenses, il lui serait possible de mettre pas mal d'argent de côté. Mais il ne put jouir que 12 mois de la fortune qu'il avait si longtemps attendue, ne devant pas survivre au-delà à son oncle, de sorte qu'une fois inclus les derniers legs, il ne resta en tout et pour tout que 10 000 livres à sa veuve et à ses filles. Dès que l'on sut que sa vie était en danger, on fit appeler son fils, auquel Mr. Dashwood, avec toute la force et l'insistance que permettait son état, demanda de prendre en compte l'intérêt de sa belle-mère et de ses sœurs. Bien qu'il fût dépourvu de la vive sensibilité qui caractérisait le reste de sa famille, Mr. John Dashwood fut touché par une recommandation de cette nature faite dans un moment pareil, et il promit de faire tout ce qui était en son pouvoir pour que ces dernières ne manquent de rien. Il se disait qu'il avait les moyens d'améliorer la situation de ses sœurs en leur donnant 1000 livres à chacune. Il se croyait sincèrement prêt à le faire. Le jeune homme n'était pas méchant, sauf à considérer que le fait d'avoir le cœur un peu sec et d'être plutôt égoïste est synonyme de méchanceté. Il n'avait rien d'antipathique par lui-même. Il était très jeune et très épris de son épouse au moment de son mariage. Mais celle-ci était la caricature de son mari, en plus borné et en plus égoïste. Elle n'était pas du tout d'accord avec ce que son mari avait l'intention de faire pour ses sœurs.
3 000 livres. Je vous prie, mon cher, de reconsidérer la situation. Comment pouvez-vous accepter l'idée de priver mon Harry, mon petit garçon chéri, d'une somme si importante? Et de quel droit les demoiselles Dashwood, qui ne sont que vos demi-sœurs, obtiendraient-elles de telles largesses?
C'est la dernière volonté de mon père qui me demande d'aider sa veuve et ses filles.
10 contre 1 qu'il n'a plus toute sa tête. S'il l'avait, il ne songerait pas un seul instant à vous supplier de priver votre propre enfant de la moitié de votre fortune.
Il n'a pas exigé de somme précise, ma chère Fanny. Il m'a simplement demandé, sans autre précision, de les aider et de leur faciliter l'existence mieux que lui-même a pu le faire. Il a demandé de le lui promettre et je n'ai pas pu faire autrement que de dire oui. La promesse ayant été donnée, elle doit être tenue. Je dois faire quelque chose pour elles quand elles quitteront Norland et qu'elles iront s'installer ailleurs.
Parfait. Faites quelque chose pour elles. Mais ce quelque chose n'a pas besoin d'être 3 000 livres. Songez que l'argent que l'on a donné ne revient jamais. Si au moins l'argent pouvait être rendu à notre pauvre petit garçon.
Je ne voudrais pas paraître mesquin. Dans une telle situation, mieux vaut faire trop que pas assez. Au moins, personne ne pourra penser que je n'ai pas fait assez pour elles, même si elles peuvent difficilement s'attendre à plus.
Impossible de savoir ce qu'elles peuvent bien attendre. Mais ce n'est pas à nous de nous préoccuper de leurs attentes. La question, c'est ce que vous, vous pouvez vous permettre de faire.
Absolument. Et je pense alors pouvoir me permettre de leur donner 500 livres chacune. Dans l'état actuel des choses, sans complément de ma part, elles recevront chacune 3000 livres à la mort de leur mère, ce qui est une jolie somme pour une jeune femme.
Oui, bien sûr. Et je reviens à me dire à présent qu'elles n'ont besoin de rien d'autre. Elles auront 10 000 livres à se partager. Si elles se marient, elles seront à l'abri du besoin. Et si elles ne se marient pas, elles pourront vivre toutes les quatre confortablement avec les intérêts des 10 000 livres.
Vous avez parfaitement raison. Et je me demande donc s'il ne serait finalement pas préférable de faire quelque chose pour leur mère pendant qu'elle est en vie, plutôt que pour ses filles. Je veux dire une sorte de rente annuelle. Mes sœurs en ressentiraient comme elles les effets bénéfiques. 100 livres par an, voilà qui les mettrait à l'abri du besoin.
Il ne fait aucun doute que ce serait mieux que de se séparer de 1 500 livres d'un coup. Mais si Mrs. Dashwood devait vivre 15 ans, nous nous serions bien fait avoir.
15 ans, ma chère Fanny. La moitié, ce serait déjà bien beau.
Vous avez raison. Mais songez comme cela se constate un peu partout que les gens oublient de mourir quand on leur verse la moindre pension. En plus, elle est très solide, en pleine santé. Et elle a à peine 40 ans. Une pension viagère, ça plaisante pas. Ça revient d'une année sur l'autre. Et il est impossible de s'en débarrasser.
Je crois que vous avez raison, très cher. Tout ce que je pourrais leur donner de temps à autre leur sera bien plus utile qu'une rente annuelle. Parce qu'avec l'assurance d'un revenu plus important, elles se laisseraient aller à vivre sur un plus grand pied sans pouvoir économiser le moindre sou en fin d'année. C'est certainement la meilleure façon de procéder. 50 livres par-ci par-là leur éviteront d'avoir la peur de manquer, et cela, je pense, me permettra de respecter amplement la promesse faite à mon père.
Sans aucun doute. D'autant que pour tout vous dire, je suis convaincue que votre père n'imagine pas que vous leur donnerez le moindre centime. Songez, mon cher, dans quelle incroyable aisance votre belle-mère et ses filles vont pouvoir vivre. En tout, elles auront 500 livres par an à se partager. Que diable, quatre femmes pourraient-elles donc vouloir de plus? Elles auront à faire face à si peu de dépenses. 3 fois rien pour entretenir leur maison. Elles n'auront ni voiture ni chevaux, juste quelques domestiques. Elles ne recevront personne et n'auront donc pas de faux frais. 500 livres par an? Je n'arrive même pas à imaginer comment elles vont pouvoir en dépenser la moitié. Quant à l'idée de leur en donner davantage, elle ne tient pas debout. C'est bien plus elles que vous qui seront en mesure de donner quelque chose.
Ma foi, vous avez parfaitement raison. Mon père, dans sa requête, n'a rien d'autre en tête que ce que vous venez de dire. Lorsque ma belle-mère ira s'installer ailleurs, je ferai tout mon possible pour lui donner un coup de main. On pourra alors envisager de lui faire don de quelques meubles.
Certainement. Mais il faut tout de même faire attention à quelque chose. Même si les meubles de votre grand-oncle ont été vendus lorsque votre père et votre belle-mère se sont installés à Norland, ils ont gardé toute la porcelaine, l'argenterie et le linge, qui sont à présent la propriété de votre belle-mère. Sa maison sera donc presque complètement meublée dès son arrivée.
C'est là, en effet, un bien bel héritage. Le cas échéant, il ne nous aurait pas déplu d'ajouter un peu de cette argenterie-là à celle que nous avons, nous.
Oui. Et le service en porcelaine du petit déjeuner est 2 fois plus élégant que celui dont on se sert ici. Bien trop élégant, si vous voulez mon avis, pour l'endroit où elles n'auront jamais les moyens d'habiter. Mais enfin, c'est ainsi. Votre père ne pense qu'à elle. Et permettez-moi d'ajouter une dernière chose. Vous n'avez pas à avoir la moindre gratitude envers lui ni à respecter ses volontés, car on sait très bien que s'il le pouvait, il leur donnerait presque tout.
Cet argument était imparable. Il empêcha Mr. John Dashwood de mettre à exécution ses intentions premières, de sorte qu'il résolut in fine qu'il serait absolument superflu, pour ne pas dire inconvenant, de faire plus pour l'épouse et les filles de son père que les petits services qu'on rend habituellement à des voisins. Mr. Henry Dashwood mourut, et ses obsèques ne furent pas plus tôt achevées que Mrs. John Dashwood, qui n'avait à aucun moment prévenu sa belle-mère de ses intentions, débarqua avec son enfant et les domestiques. Ce comportement cavalier indigna Mrs. Dashwood, et elle éprouva un tel mépris pour sa belle-fille qu'elle aurait définitivement quitté la maison à l'arrivée de cette dernière, si les supplications de sa fille aînée ne l'avaient d'abord conduite à se demander s'il était bien convenable d'agir ainsi, et si la tendre affection qu'elle avait pour ses trois filles ne l'avait finalement convaincue de rester, et dans leur intérêt, d'éviter de rompre les liens avec leur frère. Elinor, la fille aînée dont les conseils étaient si avisés, possédait une solide intelligence et un jugement posé, qui à seulement 19 ans faisait d'elle la conseillère de sa mère, et qui, au bénéfice de toutes, permettait souvent de contrebalancer chez Mrs. Dashwood une impétuosité qui pouvait l'amener à commettre des imprudences. Elle avait très bon cœur, elle était affectueuse et d'une grande sensibilité, mais elle savait dominer ses sentiments. Ce savoir, sa mère devait encore l'acquérir. À bien des égards, les qualités de Marianne étaient à peu près les mêmes que celles de sa sœur Elinor. Elle avait du bon sens et de l'intelligence, mais elle se laissait entraîner par son enthousiasme et ne montrait aucune modération dans ses peines comme dans ses joies. Elle était généreuse, aimable, engageante. Elle était tout sauf prudente. La ressemblance entre elle et sa mère était des plus frappantes. Margaret, l'autre sœur, était une jeune fille enjouée et pleine de bonnes intentions, mais comme les idées romanesques de Marianne lui trottaient déjà dans la tête, sans qu'elle eût par ailleurs le même bon sens qu'elle, elle ne promettait pas, à 13 ans, de se montrer plus tard à la hauteur de ses aînés. Mrs. John Dashwood s'installa donc à Norland en tant que maîtresse des lieux, tandis que sa belle-mère et ses belles-sœurs se voyaient ravaler au rang de simples occupantes. Le mépris que Mrs. Dashwood avait dès le début ressenti pour sa belle-fille ne fit que s'aggraver quand, au bout de 6 mois de résidence partagée, elle sut à quoi s'en tenir à son sujet. Et il est probable qu'en dépit de l'importance que Mrs. Dashwood attachait à la politesse et à l'affection maternelle, les deux dames n'auraient pas pu vivre aussi longtemps sous le même toit si une circonstance particulière ne l'avait poussée à vouloir prolonger le séjour de ses filles à Norland. Cette circonstance n'était autre que l'attachement grandissant qui liait Elinor, sa fille aînée, au frère de Mrs. John Dashwood, un jeune homme distingué et agréable qui leur fut présenté peu après leur arrivée à Norland et qui y avait ensuite passé le plus clair de son temps. Certaines mères auraient pu voir leur intérêt dans cette fréquentation et encourager leurs sentiments mutuels, car Edward Ferrars était le fils aîné d'un homme qui avait laissé une fortune à sa mort, tandis que d'autres auraient pu trouver sage d'y mettre le holà, car hormis une toute petite somme, il dépendait entièrement du bon vouloir de sa mère sur le plan financier. Mais Mrs. Dashwood ne se laissait influencer par aucune considération de ce genre. Il lui suffisait qu'il parût aimable, qu'il aimât sa fille et qu'il en allât de même pour Elinor. Ce n'est ni par l'élégance de ses manières, ni par un physique particulièrement avenant qu'Edward Ferrars s'était attiré leur bonne grâce. Il n'était pas beau, et il fallait le connaître pour le trouver aimable. Il manquait de confiance en lui pour se présenter à son avantage, mais, une fois sa timidité naturelle surmontée, tout en lui pouvait laisser penser qu'il était d'une nature aimante et ouverte. Il possédait un jugement sûr que son éducation l'avait aidé à améliorer. Mais il n'avait ni les compétences, ni les traits de caractère qui lui auraient permis de satisfaire les désirs de sa mère et de sa sœur, lesquels auraient aimé qu'il devienne célèbre, sans trop savoir dans quel domaine. Fort heureusement, il avait un frère cadet, Robert, plus prometteur que lui. Il avait fallu plusieurs semaines avant qu'Edward se fasse remarquer par Mrs. Dashwood, car elle était si déprimée à cette époque qu'elle ne prêtait pas la moindre attention à son entourage. Elle vit seulement qu'il était calme et discret, ce dont elle lui était reconnaissante. C'est d'abord une remarque que fit incidemment Elinor sur ce qui le différenciait de sa sœur Fanny qui l'amena à s'intéresser à lui et à l'apprécier davantage. Et ce fut cette même différence entre eux qui lui valut tout particulièrement l'estime de cette dernière.
Dire qu'il n'est pas comme Fanny me suffit.
Il m'est d'autant plus sympathique. Je l'aime déjà.
Vous pourriez l'estimer.
Pour moi, l'estime et l'amour, c'est du pareil au même.
Mrs. Dashwood fit désormais des efforts pour un peu mieux connaître Edward. Elle était si chaleureuse qu'elle eut au fait de vaincre la réserve du jeune homme. Elle vit rapidement l'étendue de ses mérites, la conviction qui était la sienne qu'il s'intéressait à Elinor l'ayant peut-être aidée à se montrer perspicace. Elle n'eut pas plutôt décelé des signes d'inclination dans son attitude vis-à-vis d'Elinor qu'elle conclut qu'ils s'aimaient, envisageant désormais un mariage imminent.
Ma chère Marianne, Elinor va sans doute se marier dans quelques mois. Elle nous manquera, mais elle va être heureuse.
Mais maman, qu'allons-nous devenir sans elle?
Ma chérie, cela ne sera pas vraiment une séparation. Nous vivrons à quelques pas les unes des autres et nous nous verrons tous les jours. Tu trouveras en Edward un frère, un vrai, un frère attentionné. J'ai la plus haute opinion de sa bonté. Mais tu as l'air grave, Marianne. Tu n'approuves donc pas le choix de ta sœur?
Il me surprend un peu, en effet. Edward est très plaisant, hein, et je l'aime tendrement. Mais ce n'est pas le genre de jeune homme. Il lui manque quelque chose. Sa personne n'a rien de remarquable. On ne voit pas pétiller dans son regard cette vivacité, ce feu, où l'on peut tout de suite lire la vertu et l'intelligence. De surcroît, maman, j'ai peur qu'il n'ait pas vraiment de goût pour les arts. La musique ne semble guère lui plaire. Et même s'il admire beaucoup les dessins d'Elinor, son admiration n'est pas celle d'un homme capable de les apprécier à leur juste mesure. Il est évident qu'en dépit de l'attention fréquente qu'il lui porte quand elle dessine, il n'y connaît en fait rien du tout. Son admiration est celle de l'amoureux, pas celle du connaisseur. Oh, maman, que les manières d'Edward manquaient d'esprit et d'allant pendant sa lecture hier soir! J'étais vraiment malheureuse. Elinor, elle, a pourtant supporté cela avec un tel flegme qu'elle a à peine paru s'en apercevoir. J'ai eu du mal à rester en place. Entendre dire ces vers superbes qui m'ont tellement bouleversée avec un calme si imperturbable, une si terrible indifférence.
Il aurait certainement mieux fait avec un texte en prose tout simple et élégant. C'est ce que j'ai pensé à ce moment-là. Mais c'est toi qui as insisté pour lui donner du Cooper.
Voyons, maman, comment peut-on ne pas être inspiré par Cooper ? Mais bon, il faut tenir compte des différences de goût. Elinor ne ressent pas les mêmes choses que moi et elle peut donc tolérer cela et être heureuse avec lui. Mais moi, si je l'avais aimé, cela m'aurait brisé le cœur de l'entendre lire avec un tel manque de sensibilité. Maman, plus je connais le monde et plus je suis convaincue que jamais je ne rencontrerai un homme que je pourrais aimer. Je suis si exigeante.
Ma chérie, souviens-toi que tu n'as pas encore 17 ans. Tu es bien trop jeune pour désespérer d'être heureuse.
Quel dommage, Elinor, qu'Edward n'ait aucun goût pour le dessin.
Aucun goût pour le dessin? Mais où vas-tu chercher cela? C'est vrai qu'il ne dessine pas lui-même, mais il aime beaucoup regarder le travail des autres. Et je t'assure qu'il possède une sorte de goût inné, même s'il n'a pas eu l'occasion de le perfectionner. Il a si peu confiance en son jugement en la matière qu'il ne veut jamais donner la moindre opinion sur un tableau. Mais le jugement sûr et les goûts simples qui sont naturellement les siens le mettent en général sur la bonne voie. Marianne, j'espère que tu ne vas pas t'imaginer qu'il manque tout simplement de goût.
Ne m'en veux pas, Elinor, si mes paroles ne sont pas toujours à la hauteur de l'estime que tu lui portes. Je n'ai pas eu aussi souvent que toi l'occasion de me faire une opinion suffisamment fine sur son intelligence, ses inclinations et ses goûts. Mais j'ai la plus haute idée de sa probité et de son bon sens. Je le crois tout ce qu'il y a de plus aimable et de plus digne d'estime.
Tu en sais suffisamment sur lui pour rendre justice à ses qualités intrinsèques. Il gagne à tout point de vue à être connu. Qu'il s'agisse de ses mérites, de ses manières, ou de sa personne. Au premier abord, son physique n'a en effet rien de très remarquable. Mais je le connais si bien à présent que je le trouve vraiment beau. Ou disons presque beau. Et je n'essaie pas de nier tout le bien que je pense de lui, ni le fait que je l'estime beaucoup, que je l'apprécie.
Tu l'estimes ? Tu l'apprécies ? Que tu as le cœur sec, Elinor ? Oh non, pire que ça. Tu as honte de tes sentiments. Redis cela une seule fois et je quitte les lieux sur le champ.
Pardonne-moi. Et dis-toi bien que je ne voulais pas t'offenser en parlant si posément de mes propres sentiments. Imagine les plus intenses que ce que je t'en ai dit. En somme, imagine qu'ils sont à la hauteur de son mérite et de ce que je pense, de ce que j'espère être son affection pour moi, sans trop m'avancer ni me faire des idées. Marianne, je n'ai aucune certitude sur les sentiments qu'il a pour moi.
Vous n'êtes donc pas vraiment fiancée ? Mais cela ne saurait tarder. Et ce retard aura deux avantages. Je ne vais pas te perdre tout de suite. Et Edward aura tout le temps de perfectionner son goût inné pour le passe-temps favori qui paraît si indispensable à votre futur bonheur. Si au moins tes dons pouvaient lui donner l'envie d'apprendre lui aussi à dessiner, ce serait magnifique.
Elinor avait dit à sa sœur le fond de sa pensée. Impossible pour elle de considérer que son penchant pour Edward était aussi prometteur que sa sœur se l'imaginait. Il y avait parfois chez lui un découragement qui, sans trahir de l'indifférence, n'était pourtant guère plus enthousiasmant. Il fallait probablement en chercher la cause dans la situation de dépendance où il se trouvait et qui l'empêchait d'exprimer son affection. Elle savait que sa mère, Mrs. Ferrars, ne faisait pas grand-chose pour lui simplifier la vie et qu'elle ne lui donnait pas le moindre espoir de pouvoir fonder un foyer autrement qu'en suivant à la lettre l'idée qu'elle se faisait de son brillant avenir. Mais, si timides que fussent les sentiments d'Edward, ils suffirent à inquiéter sa sœur Fanny quand elle s'en aperçut et, chose dont elle était encore plus coutumière, à lui ôter toute amabilité. Elle saisit le premier prétexte pour aller trouver sa belle-mère à ce propos et pour lui dire sans embâge ce qu'étaient les grandes espérances de son frère. Lui rappeler la volonté de Mrs. Ferrars de bien marier ses deux fils, tout en l'avertissant du risque que courait toute jeune femme cherchant à piéger Edward. Mrs. Dashwood fut incapable de faire semblant de rien, ni de garder son calme. Elle lui fit une réponse à la mesure de son mépris et elle prit congé sur le champ, décidant que, quelle que pût être l'incommodité et le coût d'un déménagement aussi soudain, sa chère Elinor ne passerait pas une semaine de plus à subir de telles insinuations. Elle était dans cet état d'esprit quand elle trouva au courrier une lettre qui lui faisait une offre tombant à point nommé. On lui proposait de prendre, à des conditions avantageuses, une petite maison appartenant à l'un de ses parents, Sir John Middleton, un gros propriétaire du Devon. La lettre était de sa main et rédigée avec le désir de se montrer aimable et obligeant.
Chère Mrs. Dashwood, je me suis laissé dire que vous cherchiez un logement et, même si la maison que je vous propose n'est qu'un simple cottage, je vous assure que j'y ferai tous les aménagements que vous jugerez nécessaires si l'endroit vous convient. Je serais très honoré que vous et vos filles veniez à Barton Park, où j'habite. Vous pourriez ainsi vous rendre compte par vous-même si, après quelques travaux, Barton Cottage serait susceptible de vous convenir.
Mrs. Dashwood n'eut pas besoin de prendre le temps de réfléchir ou de se renseigner. Sa décision fut prise à la lecture de la lettre. Quitter le voisinage de Norland n'était plus un malheur, mais le but recherché. Elle écrivit aussitôt à Sir John Middleton pour le remercier de sa grande amabilité et lui dire que son offre était acceptée. Elle n'eut pas plus tôt envoyé sa réponse qu'elle ne bouda pas le plaisir qu'elle eut à annoncer à son beau-fils et à sa femme qu'elle avait trouvé une maison. Et que dès que tout serait prêt pour son installation, elle ne les incommoderait plus très longtemps. Mr. John Dashwood n'eut de cesse de redire à sa belle-mère à quel point il était désolé qu'elle eût choisi une maison si éloignée de Norland, car il lui serait impossible de lui donner un coup de main pour son déménagement. Il était en conscience assez contrarié que les choses se passent ainsi, car il lui était de facto impossible de lui rendre les petits services auxquels il avait prévu de limiter la promesse faite à son père. Les biens meubles furent expédiés par bateau. Il comprenait essentiellement du linge de maison, de l'argenterie, un service en porcelaine, des livres et le beau pianoforte de Marianne. Mrs. John Dashwood ne vit pas tout cela partir sans un petit pincement au cœur. Avant de prendre le chemin de l'ouest, il ne restait plus à Mrs. Dashwood qu'à faire enlever ses derniers effets de Norland et à choisir ses futurs domestiques, qui, grâce au bon sens d'Elinor, furent limités à 3, 2 femmes de chambre et un valet. Le moment était désormais venu pour son beau-fils d'honorer la parole qu'il avait faite à son père. Puisque rien n'avait été fait quand il était venu s'installer au domaine, leur départ était le moment idéal pour lui permettre de passer à l'acte. Mais, à entendre les propos qu'il tenait, Mrs. Dashwood eut au fait de comprendre que sa générosité se limiterait aux 6 mois d'hospitalité qu'il leur avait accordés à Norland.
Raison et sentiment, de Jane Austen. Traduction Sophie Chiari, adaptation Juliette Eman. Premier épisode. Avec Élodie Hubert, la narratrice, Mélissa Barbeau, Elinor, Hélène Morelli, Marianne, Clémentine Verdier, Mrs. Dashwood, Marjorie Delarquier, Fanny Dashwood, Guillaume Marquet, John Dashwood, Julien Cimre, Sir John Middleton, et la voix de Sophie Dole. Conseillère littéraire Emmanuelle Chevrière. Musique originale et piano Denis Chouillet. Violon Floriane Bonani. Violoncelle Renaud Guilleux. Bruiteuse Elodie Fiat, assistée de Éléonore Malo et Aurélien Bianco. Prise de son, montage, mixage Claire Levasseur et Éric Villenfin. Assistante à la réalisation Céline Paris. Réalisation Juliette Eman. Raison et sentiment de Jane Austen, dans la traduction de Sophie Chiari, est édité chez Le Livre de Poche.